Salut les marques, salut les smarts, salut le peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, commence fort. Nous, les chroniqueurs de la team catch-up, nous allons passer au crible tous les shows de la WWE. En ce moment, c'est les vacances, pas mal de super shows, pas mal de super catch-up. Et là, bah non, ça sera un classique, ça sera un SmackDown. Et du coup, ça sera un SmackDown dans le format classique avec une tag team pour commenter, puisque je ne suis pas tout seul, moi papy, mais je suis accompagné. Par qui ? Par Letty. Bonjour Letty.
Salut papy, salut à tous. Comment ça va ?
Est-ce que tu te sens prête, Letty, à reviewer comme une folle furieuse ?
Tout à fait prête. Après cette petite pause, je suis bien, bien motivée pour reprendre le podcast.
Tu es bien motivée pour mettre des bonnes baves dans la tronche. Alors, qu'est-ce qu'on va arriver ? Qu'est-ce qu'on a déjà dit ? J'avais dit on va arriver à un SmackDown. C'est lequel le SmackDown ? C'est le SmackDown 1249e. Voilà, du nom. Qui se passe où ? Qui se passe ? Ah, bah, chez les Français, chez en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Et puis, qui du coup va nous accueillir ? Qui va nous accueillir avec quoi ? Avec quoi ? Avec quoi ? Avec Jey Uso dans le ring ? Mais oui, Jey Uso qui est là. Qui s'apprête à parler et puis bah, qui ne va jamais pouvoir commencer sa phrase puisque boum ! Alors là, ça commence fort, là, boum directement, la musique de la Bloodline. Et puis bah, Bloodline, enfin ce qu'il en reste, arrive au grand complet puisqu'on a donc Roman Reigns qui arrive, accompagné de Solo et de Paul Heyman. Et puis du coup, bah, Jey, il a peu le temps de démarrer, bah, et Roman, il prend la main, il fait bah, « nanana, acknowledge me, tout-a-ti-ta-ta-ta-ta ». On la connaît, on la sait. Puis après avoir fait son petit show auprès du public, il va se concentrer directement sur Jey en lui mettant, on va dire, la pression. Quoi, parce qu'il va lui dire, bon alors Jey, ok, j'ai accepté ton tribal match là pour que tu prennes le contrôle de tout, mais est-ce que tu te sens prêt là, du coup, à être la tête de la table ? Parce que bon, si t'es arrivé jusque-là, si tu étais main event Jey Uso, c'était grâce à moi. Si tu étais le right hand man, c'était grâce à moi. Les titres tag team, c'est grâce à toi. Donc du coup, bah voilà quoi. Et puis en plus, c'était grâce à Roman, mais c'était aussi parce qu'il y avait autre chose. Parce que bah, Jimmy n'était pas là. Jimmy était blessé, un peu comme actuellement. Donc bah, quelque part, il sous-entend un peu que Jey était devenu un peu le mec qui était aussi haut. Un peu par défaut, quoi. Donc il lui fait bon bah voilà, donc Jey, tout ce que t'as obtenu, tu l'as obtenu pour deux raisons. D'une part parce que Jimmy était blessé, d'autre part parce que moi, Roman Reigns, je te l'ai donné. T'es un peu un tocard, quoi. T'es un peu un loser. Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas me battre, moi, Roman Reigns ? Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas me battre ? Puis là, Jey là qui encaisse un peu toutes les phrases là depuis le début, lui fait bah. En fait, ce qui me fait croire que je vais te battre, moi, Roman, c'est bah, que je t'ai déjà battu, en fait. Ouh, dans la tête de Roman. Là, ça l'a. Du coup, ça le rend pas très, très bien, ça, Roman. Et puis, Jey, il en rajoute une couche en disant, je t'ai déjà battu. Et le pire, c'est qu'à SummerSlam, bah, je vais te battre une deuxième fois. Pouh ! Là, enchaînement des coups dans la tronche de Roman. Première pause, hein. Allez, hop, je fais une pause directe parce que là, c'était. Une entrée coup de poing dans la tête de Roman Reigns. Est-ce que toi aussi, Letty, tu as été mis KO par cette riposte de Jey Uso ?
C'est vrai que c'était une grosse, grosse entrée et on voit un peu le voilà Roman Reigns qui essaye de faire un petit peu ses jeux d'esprit. C'est voilà, je vais rentrer dans ta tête, je vais essayer et en une phrase, il se fait coucher direct en fait. Il s'échine pendant 5 minutes, oui, et puis si, et puis ça, et puis machin, c'est à cause de moi, c'est grâce à moi, gna 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 gna. Paf, 3 mots, je t'ai déjà battu, hop, réglé. La tête de Paul Heyman qui veut tout dire. Et j'ai hâte de voir ce match. Parce que je pense qu'il peut se passer pas mal de trucs avec Solo ces derniers temps qui fait pas mal aussi de petits regards, de petites choses vers la ceinture, vers le collier surtout. Et je pense que Jey il tient le bon filon pour rentrer plutôt lui dans la tête de Roman, je pense, que le contraire.
Yes, bah ouais, non, non, mais et puis bon, je pense que c'est là aussi la bonne dynamique parce que je trouve que Jay a un petit peu est pas encore trop super chaud avec ses promos face, même s'il est quand même bien soutenu par le public, hein. Et donc du coup là, s'il se met en mode silencieux puis qu'il laisse Roman finalement faire le boulot pour lui, c'est un peu la dynamique qu'il faut pour que cette relation fonctionne bien, avec des phrases coup de poing comme là il a fait pour remettre Roman à sa place. Je vais quitter cette rivalité là, je reprends après la suite là parce qu'en fait vous en doutez, ça sera un peu le fil bleu de l'émission, donc je vais zapper exactement ce qui se passe tout de suite après pour arriver directement sur le premier match de la soirée, qui en fait est une finale d'un petit tournoi qu'on avait eu pour le titre US, qui affronte deux membres d'une même faction, qui sont la LWO, et donc les deux membres sont Rey Mysterio et Santos Escobar. Voilà, je ne trouvais plus mes mots. Qui s'affrontent en finale, donc les deux qui avaient gagné un triple threat, et qui s'affrontent donc du coup pour être le challenger numéro 1 à titre US, détenu par Austin Theory qui sera, on le verra dans une espèce de, comment s'appelle ça, de loge privée, qui va surplomber l'arène et puis qui va regarder le match avec attention, parfois rire, parfois pleurer. Voilà, c'était tout l'acteur studio d'Austin Theory tout seul dans sa loge, avec, je sais pas si tu as vu, un méga pot de pop-corn et deux gros pots de pop-corn au-dessus de sa tête qui étaient au cas où il y a encore faim derrière, quoi. Et donc le match, eh ben, il va se la jouer un peu en mode respect au début, avec je serre la main, tout ça. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que le match commence à partir, ben, les coudes deviennent de plus en plus stiffs, les baffes deviennent de plus en plus fortes. Et puis au moment de partir à la pub, en fait, on a Santos Escobar qui fait un dive sur Rey Mysterio. Coupure pub, retour pub, Rey Mysterio ne s'est toujours pas relevé. On verra dans le ralenti en fait qu'il a fait un comment dire, un coup du lapin en fait en tombant en fait parce qu'il retombe sur le dos et sa tête vient claquer le sol. Et en fait, bah, il s'en remettra jamais puisque bah, l'arbitre est obligé d'arrêter le match. Et Santos Escobar devient vainqueur sur un forfait de Rey Mysterio qui après va féliciter Santos Escobar, mais le match s'arrête là-dessus. Alors, attends, je vais essayer de te retrouver la durée. Parce que du coup, ça a duré le temps d'arriver jusqu'à la pub. Donc, ça fait quand même 14 minutes 15. Hein. Je pense que c'est pub comprise. Et donc, Escobar devient le challenger numéro 1 d'Austin Theory qu'il a battu la semaine dernière en plus. Donc, plutôt chaud pour cette rivalité. Mais je ne sais pas toi, Letty, parce que j'ai pas l'impression que ce soit un job de la part de Rey Mysterio. J'ai plus l'impression que c'était legit, cette blessure-là de Rey Mysterio.
Il me semble avoir vu passer sur les réseaux que visiblement oui, c'était plutôt legit comme blessure, donc c'est quand même un peu inquiétant. Après, le match en lui-même était pas mal. Comme tu l'as dit, ils ont commencé un peu doucement. Voilà, t'es mon copain, je vais pas trop te taper. Et puis finalement, ouais, ils y sont allés quand même de bon cœur, on va dire, à partir du tiers du match à peu près. Après, tant mieux pour Santos Escobar, je le vois bien. Voilà, d'autant plus que, comme tu l'as dit, il l'a battu déjà la semaine dernière. Donc, c'est logique, quelque part, qu'il ait son droit à son shot. Après, bon, moi, personnellement, j'étais pas hyper fan, voilà, des deux vainqueurs du match. Je voyais pas l'intérêt de faire s'affronter la LWO là comme ça sans avoir rien vendu avant. Dans le sens où voilà, ils s'entendent bien, enfin il n'y avait pas de raison particulière d'essayer de nous vendre quelque chose. Après, voilà, le match était plutôt pas mal, tant mieux pour Escobar. Et puis ben, on espère que c'est pas très très grave, voilà, pour Mysterio quand même, qui s'est pas trop trop blessé, quoi.
Yes, ouais, bah, on va espérer qu'il ne soit pas blessé, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, c'était un match qui. Bah, on s'était posé la question la semaine dernière avec IRM en disant bah, qu'est-ce qui nous réserve avec ce match-là? Parce que c'était un peu une finale sortie de nulle part. On voyait plus, enfin, on s'attendait plus à soit un LA Knight, soit quelqu'un d'autre en finale pour avoir justement une opposition de style et aussi il y a un vainqueur qui soit potentiellement plus surprise que le deux membres de la même faction. Mais là, alors s'il rajoute ce match qui était un peu bizarre, plus en plus le finish qui du coup est coupé par la blessure de Rey Mysterio, c'est vrai que c'est, on ne sait pas du tout où on va. Moi, plus ça avance, plus je me dis qu'en fait il va pas se passer grand chose. Escobar il va juste se faire latter par Théorie, puis merci, au revoir quoi. Parce
oui,
que ils le vendent vraiment pas trop hein, cette histoire là.
Non, je pense que ça va se passer comme ça aussi.
Ah bah alors, une histoire qui est un peu plus vendue, je la fais tout de suite, allez, parce qu'on va quand même remonter un peu le niveau. On est dans les coulisses. Dans les coulisses, on a Bianca Belair, ça y est, elle s'est remise de sa diarrhée chronique. Et donc, elle peut de nouveau participer au show bleu. Alors qu'elle est en interview, elle est vite interrompue par deux jeunes femmes là, qui râlent un peu là, parce que. Alors, je ne sais plus, Sunny Deville, elle répond juste 11. Alors, je pensais qu'elle parlait au début de Stranger Things, mais aucun rapport. En fait, ça fait 11 jours qu'elles sont championnes et elles n'ont toujours pas le droit à fêter le titre, en fait. Donc là, elles commencent à faire un peu la tête. Chelsea Green et Sunny Deville, je ne sais plus si je dis leur nom, mais c'est elles deux qui bien sûr, ont interrompu Bianca Belair. Et donc, du coup, elles viennent parasiter l'interview parce que. Elles veulent du temps d'antenne à la place de Bianca Belair qui, elle, en a beaucoup trop. Bianca, du coup, elle dit, vous voulez du temps d'antenne, moi, je vous affronte, il n'y a pas de souci. Et du coup, elle est toute seule face à deux et il y a une autre personne là, qui passe dans le coin, qui entend ça, qui fait, moi, je suis Charlotte. Mais Bianca, t'es toute seule, je vais t'accompagner. Et puis voilà, et puis on va en parler à Adam Pearce et puis on va se faire ce match-là. Bianca Belair fait non, c'est elle fait, mais quand je disais ça, c'était pas pour être en tag team avec toi, non, c'est bon, tu me saoules à me coller tout le temps là. Et Charlotte fait si, allez, hop, on va y aller, on va en parler à Adam Pearce et on va organiser ça. Et spoiler, effectivement, un peu plus tard dans le show, il y aura le match. J'y vais tout de suite. On va y aller parce que c'est les filles, c'est important de les mettre en valeur. Et donc, un match qui va globalement. Une comparaison de force entre Bianca et Charlotte hein, qui vont systématiquement se copier l'une l'autre quand l'une fait un porté, l'autre fait un porté, quand l'une fait un saut carpé, l'autre fait un saut carpé, etc. Au final, après avoir massacré les deux championnes par équipe, Bianca Belair s'apprête à balancer son Kiss of Death. Mais Charlotte l'intercepte, fait le tag, fait un big boot, merci, au revoir, le tombé. Et du coup, les deux filles continuent à se chamailler comme pas possible après cette victoire. Allez, petite pause chez les filles. Qu'est-ce que tu en penses du coup de cette rivalité cette rivalité au sein d'un Triple Threat, parce que ne pas oublier que ces deux filles-là vont affronter Asuka à SummerSlam. Donc la rivalité Charlotte Bianca, qu'est-ce qu'elle t'inspire, très chère Letty?
Je trouve que c'est plutôt intéressant. Le fait qu'elles se battent plutôt que de parler, ça m'arrange parce que j'aime pas trop les promos de que ce soit Charlotte, ça dépend des fois. Bianca, j'ai beaucoup beaucoup de mal. Donc qu'elles y aillent, en démonstration de force, tout ça, je trouve que c'est plutôt positif. Après, ce qui m'a un petit peu dérangé dans le segment, c'est que le match était très très bien, c'est pas du tout le problème. C'est que pour mettre en valeur Charlotte et Bianca, on a quand même écrabouillé les championnes par équipe. Et je trouve que c'est un petit peu dommage de les faire perdre pour mettre en valeur une autre histoire, alors qu'elles ont leur propre histoire aussi à écrire. Elles auraient pu peut-être tomber sur. Trouver deux autres nanas lambda dans le vestiaire pour faire un match. Après, le match en lui-même était très très bien et ça fait toujours plaisir de voir Chelsea et Sonia. Donc, mitigé. Le match était bien, l'histoire mise en avant me plaît bien, mais ça m'embête un peu pour Chelsea et Sonia.
Ouais. Moi, je suis plus partagé positivement sur l'affaire parce qu'en fait, je juge que Chelsea et Sonial sont à un niveau comme plus low card versus Bianca et Charlotte qui sont les top main eventers côté filles. Oui. Donc du coup, ça me choque moins en fait finalement qu'elle se fasse latter. Surtout qu'en plus, vu leur position en tant que heel, elles sont, c'est plus des défis que tu as envie de voir se faire fermer la bouche. Donc du coup, entre la position sur la carte et le côté heel, ça fait que du coup, je suis moins choqué finalement par cette défaite là, parce que franchement, elles vont demain, elles refont un... quand elles vont affronter des vraies filles de la tag team, et ce sera pas des Charlotte et des Bianca, ce sera plus des je sais pas qui, comment elle s'appelle, celle qu'on voit plus jamais là. Ah, voilà, j'ai choisi. J'ai bien. Je voulais juste sortir un nom, je l'ai oublié. Hein?
Je vois pas de qui tu parles, du coup.
Ah, la galloise, là, mais bon, ça vient plus. Ou alors des Miaïm ou des machins comme ça, voilà, on va dire tous les noms pourris, les Candice LeRae, les Shotzi, les Nikki Cross, les. Et puis voilà, donc vous retrouverez celle qui fait le Chainless Wizard qui est galloise, là, mais le nom m'échappe. Bref, toute la low card. Quand elles s'affronteront celles-là, elles seront plus à leur niveau et dans ces cas, ce sera important qu'elles gagnent. Par contre, quand elles vont affronter des Bianca, des Charlotte, ou si demain elles affrontent des Becky ou des Bailey, ça me choquera moins si elles perdent. Ça me perd quand même. Donc voilà, donc je suis pas trop trop choqué. À propos de mecs qui se font latter la tronche, je vais faire un petit retour en arrière parce qu'en fait, j'avais zappé un match. Alors juste pour vous dire, comme les filles, elles auront quand même fait un joli match. De 10 minutes 27. Par contre, il y a un match d'une minute 30 que je ne vous ai pas compté, puisqu'en fait, c'est une redite de ce qui se passe régulièrement à l'écran et aussi en Dark Show en ce moment à SmackDown, puisqu'on a un LA Knight qui n'a pas d'occupation et qui, du coup, bah, dès qu'il voit Itro au centre du ring avec le micro, bah, il intervient et il est pourri. Là, j'ai trouvé qu'il avait été assez violent au micro, puisque. Il a globalement, alors je ne sais plus ce qu'il a dit sur chacun, il a comparé Top Dollar à Oncle Phil là, du Prince de Bel-Air. Je ne suis pas sûr que la référence marche bien avec tout le monde, alors peut-être aux États-Unis peut-être, mais ça commence à faire vieux hein, le Prince de Bel-Air quand même. Hein. Bon, ça marche bien avec les quarantenaires comme LA Knight. Il insulte ensuite Bifab, je ne vais pas répéter, mais globalement, il s'attaque à sa vertu, hein, si on peut résumer comme ça. Et puis bah, il a fini par chanter Adonis en lui disant bah, je vais te péter la tronche, et puis bah, effectivement une minute trente c'est ce qu'il a fait, il lui a pété la tronche. On apprendra un peu plus tard suite à un segment coulisses où il sera notamment rejoint par toute la bah mince alors ah décidément j'oublie tous les noms aujourd'hui, la Brawling Brutes, tous les Brawling Brutes qu'il y aura une Battle Royale spéciale à SummerSlam, et donc du coup bah, et Sheamus et Adam Pearce et LA Knight vont en faire partie, et du coup Adam Pearce va en profiter aussi pour nous booker un LA Knight Sheamus la semaine prochaine si je dis pas de bêtises. Voilà pour ce petit passage LA Knight. Est-ce que tu as des choses particulières à dire dessus, Letty?
Ouais, écoute, c'est très bien. Il fait son petit chemin. Voilà, il se montre un petit peu toutes les semaines. On peut voir toutes les qualités qu'il a au micro, et bon, sur le ring, on n'a pas trop le temps parce qu'il se contente de déglinguer tout le monde. Mais comme c'est Itro, moi ça me dérange pas. ça fait toujours plaisir de les voir se faire écrabouiller. Donc, non, très très bien.
Oui, bah non, mais il y a la bonne combinaison de Itro qui sont insupportables, qui est déjà insupportablement face et qui du coup en heal. C'est au même niveau, finalement ils sont aussi insupportables, mais l'avantage c'est qu'ils sont pétés la tronche régulièrement maintenant. Et pareil, les Knights qui il n'y a pas beaucoup de mouvements in-ring. Alors, on l'avait vu catcher beaucoup la semaine dernière, c'était pas terrible. Là, du coup, il s'est concentré juste sur ses signature moves, notamment sa descente du coude et son finish qui font du coup qui permettent de jouer sur ses forces, hein, puisqu'il fait 90% de micro et 10% de catch. Et il est quand même plus à l'aise là-dessus. Et j'ai trouvé aussi que sa promo était un poil plus, face que d'habitude, dans le sens où c'était dirigé contre les heels, plutôt que d'habitude. En fait, il parle de lui, puis tu sais jamais trop s'il est face, s'il est heel. Là, par contre, il a clairement agressé les heels au micro. Alors, c'est pas très très fin, mais bon, ça rappelle des promos de Face qui sont rarement fins comme des. Alors, je vais prendre des références, mais bon, il n'y en a pas à ce niveau-là. LA Knight, mais c'est pour expliquer un peu le niveau. C'est plus, ça va rappeler des Cena ou même le Rock qui avaient l'habitude de griller complètement leur adversaire au micro, quoi. C'était un peu dans cet esprit-là. Je lui souhaite, bien sûr, qu'il arrive à ce niveau-là, le pauvre LA Knight. Je ne suis pas contre lui. Ne dites pas ça. Allez, tant qu'on en est à parler des filles, on va retourner en coulisses, puisqu'on a parlé tout à l'heure des filles de Charlotte, de Bianca, de la Locard, de LA Knight. Et bien là, il y a d'autres filles qui sont en coulisses, puisqu'on a Io Sky et Bayley qui sont en pleine discussion, avec Io qui nous refait, en fait, c'est un peu comme les feux de l'amour, tu vois, l'épisode se reprend exactement là où c'était arrêté la semaine dernière. La semaine dernière, Io avait dit à Bayley, pourquoi tu m'as abandonné? Et puis là, rebelote, pourquoi tu m'as abandonné, Bayley? Bayley dit, il y a eu un bordel avec Shotzi. Alors, on se peut poser la question la semaine dernière avec Irem de pourquoi Bayley était parti en coulisses alors que ça n'avait aucun sens. Et là, elle nous l'explique avec ses mots, puisqu'elle nous dit qu'en fait, elle est là, partie en coulisses pour protéger les affaires de Io Sky. Et qu'elle a bien fait parce que du coup, ils n'ont pas été abîmés par Shotzi. Bon, c'est un peu bidon, mais bon, ok, ouais, pourquoi pas. Et puis là, du coup, elle rouvre son sac et qu'est-ce qu'elle tombe? Elle tombe sur une pancarte qui lui dit de Shotzi qui lui dit on va bientôt se voir avec des mèches de cheveux collées dessus. Là. Donc vraiment la psychopathe complète de Shotzi qui poursuit Bayley. Donc du coup, Bayley et Io Sky font bon. Ce soir, on va bosser, on se barre tout de suite. Mais non, parce qu'elles sont arrêtées par la championne, Asuka, qui enfin bouge un petit peu plutôt que de faire que des attaques surprises. Et qui, du coup, commence à s'en prendre à Io. Alors, en anglais, c'est aussi pour qu'on comprenne si c'est sympa. Donc, elle a dit que, attention, si jamais tu fais ton cash-in, c'est mal va t'en prendre parce que je vais remporter quand même le match et du coup, tu vas perdre ta mallette. Mais du coup, Io, j'ai trouvé qu'elle était bien plus sûre d'elle, puisqu'elle va aussi répondre en disant « Non, mais moi, t'inquiète pas, là sur ce coup-là, je suis en totale maîtrise, et la ceinture, c'est moi qui repartir avec à SummerSlam. » Donc voilà, donc une nouvelle bataille verbale entre les deux japonaises, en anglais cette fois-ci, et avec une Io Sky qui m'avait l'air bien, bien forte dans ses propos, Letty.
Je trouvais aussi qu'elle avait bien, bien progressé dans son. Bah, autant dans sa façon de nous présenter les choses que de. Bah, que dans sa confiance en elle. Effectivement, c'était tout un segment. Bon, déjà, la petite histoire avec Bayley qui nous raconte n'importe quoi pour essayer de justifier jusqu'à la lécheton, en fait, et qu'elle ne veut juste pas le dire. Et moi j'aime bien en fait toute cette histoire qui se met en place avec la psychopathe qui les stalk, qui est un peu comme ça, qui tourne, on sait pas comment, elle vient déposer des choses dans leurs affaires, parce que ça, je pense forcément déboucher sur un match qui sera plutôt intéressant. Et puis Io Sky, j'aime bien la façon dont elle évolue, Asuka qui essaye de faire un peu un effort de parler, c'est déjà pas si mal. Et non, j'ai bien aimé cette séquence. Ça annonce de bonnes choses un peu pour cette division qui était un peu à l'abandon depuis quelques temps. Et c'est vrai que ça fait quelques semaines que la division féminine est en train de bien renaître un peu de ses cendres. Et je trouve que c'est super intéressant.
Yes, clairement là-dessus. Alors, ils ont fait un. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Il y a vraiment une bonne amélioration des filles. Alors, ça ne tutoie pas encore les étoiles. Hein, ça reste encore avec des segments plutôt courts et assez restreints. Mais ils ont fait la bonne idée, je trouve, de restreindre vraiment le groupe des filles à quelques personnes sur qui ils misent. Puisque là, si finalement, se résume, il y a 6 filles en fait, qui sont à SmackDown, ce qui est pas mal hein, sur un show de 2 heures. Je trouve que c'est une bonne base. Hein. Alors, bien sûr, l'idéal, ça serait d'avoir autant de filles que de garçons. Mais bon, on va y aller étape par étape. Et là, ils ont 6 filles, donc du coup, Bianca, Charlotte, Asuka, Bayley, Yo-Sky, et puis du coup Shotzi qui va être un peu la sixième. Ouais. Et ces filles-là, ils ont décidé de miser. Et du coup, bah, tous les segments tournent autour d'elles, ça se croise, ça se décroise. Elles ont plus ou moins eu de temps en tête. Alors, il y a quelques semaines, elles avaient très peu de temps en tête, mais là, ça commence petit à petit à grossir. Et tout le temps, avec un gros focus sur elles. Alors, là, elles ont reçu le renfort des filles d'Euro, mais bon, c'était juste pour avoir une opposition. Mais voilà, donc en misant dessus, en fait, j'ai l'impression qu'elles arrivent enfin à trouver un peu de... retrouve un peu de ressort, un peu de personnalité, et l'histoire devient plus intéressante, alors que les filles, ça ronronnait comme depuis très très longtemps. Donc, bah, je suis d'accord avec toi, c'est mieux les filles, là. Ça fait plaisir.
C'est sûr.
Ça fait plaisir. Bah, on arrive bientôt au Main Event, hein, que je n'ai pas encore annoncé, mais que je vais vous annoncer en quelques instants. Et en fait, moi, à ce moment-là du show, je me suis dit, c'est marrant, on nous avait annoncé un match et on ne l'a pas encore eu. Je ne sais pas toi si il y avait un match qui te manquait. Mais en tout cas, s'il ne te manquait pas, le voilà quand même. C'est Karrion Kross contre Karl Anderson. Ouh, ouh là là, avec un Karl Anderson qui arrive avant le match, qui dit à AJ Styles, là, c'est une affaire personnelle. Je vais aller tout seul, moi, affronter Karrion Kross et je ne veux pas que tu interviennes. Alors déjà, une affaire personnelle pour juste un coup la semaine dernière, je trouve ça un petit peu violent, mais bon, allez, pourquoi pas. Et puis donc, on a droit au match avec Karl Anderson contre Karrion Kross, un match qui se transforme en squash, en fait, puisqu'en 2 minutes 08, Karrion Kross va démembrer Karl Anderson et le massacrer. Il va même lui faire... Il prend son nouveau finish, alors, j'ai pas retenu le nom, est-ce que je vais réussir à le retrouver? Mais il y a un nouveau finish, Karrion Kross, où il fait plus à Gilbert Beco, là. Maintenant, il fait une espèce de portée et puis il jette le mec par terre. Je n'ai pas son nom. Ah si, Final Prayer, voilà. Merci à nos amis de Catch News pour cette info. Et donc, du coup, par contre, derrière, bah, une fois qu'il a fini, bah, là, il va s'attaquer à faire une soumission supplémentaire sur Karl Anderson, et là, AJ Styles intervient pour défendre son copain. Bon, voilà. Karrion Kross, Karl Anderson, c'était, on va dire, juste un rebond pour continuer la rallonger la sauce Karrion Kross et AJ Styles, tu penses, Letty ?
Oui, je pense qu'ils savent pas trop quoi faire, que ce soit avec Styles et sa bande, ou que ce soit Karrion Kross, donc ils se disent, allez, ils sont trois. Voilà, peut-être que la semaine prochaine, on aura le troisième, je sais pas, histoire de voir. Bon, après, voilà, il fallait un match, ils sont là, pourquoi pas. Après, je t'avoue que si on voit pas forcément Karrion Kross, ça me dérange absolument pas. Mais bon, après, on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines. Il faut bien qu'ils leur trouvent des choses à faire quand même.
Yes, bah ça occupe. Alors moi je voilà, j'ai rien à dire. Je vais juste dire que Karrion Kross me semble toujours bien gras. Par contre, il m'a semblé un peu plus stiff que les autres fois. Mais il est tellement parti loin là dans la lousitude depuis qu'il est arrivé que pour moi il va mettre du temps à s'en sortir, quoi. Donc je ne vais pas relever quoi que ce soit sur ce match là, et qui pour moi est vraiment très en dessous d'un peu tout le reste qu'on a eu dans le show, hein. Quand on parle de tous les gars, toutes les pop et tout qu'on a eu, ce mec là il est vraiment complètement descendu à la carte. Ça me fait mal au cœur que AJ Styles le suive, hein, parce que AJ Styles, il reste plus beaucoup d'années devant lui, je pense, parce que mine de rien, entre son âge et la grosse blessure qu'il a eu récemment, je suis pas sûr qu'on puisse encore l'avoir 10 ans. Bah, j'aimerais bien qu'il refasse encore un petit peu mieux que s'occuper de faire du social à Karrion Kross. Mais bon, allez, on arrive au main event. Donc du coup, je vous fais un retour en arrière, puisque bah, je vous avais quitté tout à l'heure. Je t'avais quitté, Letty, avec Jey Uso qui venait de moucher Roman Reigns dans le ring. Et puis bah, Jey Uso, en fait, il n'a pas fait que moucher Roman Reigns, puisqu'il est retourné en coulisses et il a croisé Grayson Waller. Voilà, Grayson Waller qui lui propose un Grayson Waller effect. Au lendemain de SummerSlam, en fait, parce qu'il dit moi je pense que tu vas perdre à SummerSlam, parce que pour moi Roman est plus fort que toi. Donc jusque là Jey Uso, ça le faisait pas plaisir, mais bon, Admettons, hein, tout le monde doit le refaire ses pronostics. Et Grayson Waller rajoute comme ça, je fais un Grayson Waller effect et ça sera un spécial Little Giuso. Et là, Giuso se met à rire. Alors Grayson Waller, il se met à rire aussi en disant eh, ça l'a fait marrer ma blague. Et puis pouf, il se prend une patate de Giuso qu'il fait voler d'ailleurs, ce qui était assez drôle parce que là, il prend juste une petite giflette et il termine derrière les meubles. Mais bon, c'est du catch. Hein. Des fois, les coups sont violents. Et donc, du coup, bah, on aura un match qui va être booké dès ce soir, qui sera un main event. Jey Uso, Grayson Waller, puisqu'en fait, Grayson Waller est allé se plaindre à Adam Pearce de ce coup-là. Et donc, du coup, on aura voilà, des petits segments backstage. On aura un Grayson Waller qui va se chauffer un peu avant le match en disant qu'il va arrêter à ratatiner Jey Uso, puis on a le main event qui démarre entre main event Jey Uso, voilà, il a repris son titre contre Grayson Waller, et en fait le match va à peine démarrer que la musique de Roman Reigns va se faire entendre, et c'est toute la Bloodline qui de nouveau intervient sur la scène pour aller regarder le match. Vraiment, ils se mettent aux abords du ring et puis ils regardent ça avec un sourire, donc ça permet un peu de Grayson Waller de reprendre un peu le dessus sur le match, mais néanmoins ça suffira pas parce que au moment où Waller veut gagner le match, il y a Giuso qui contre Waller avec un spear piqué à Roman Reigns, qui le fait en plus face à Roman Reigns, et toujours en regardant Roman Reigns, il monte sur le turnbuckle et il nous fait un Uso splash pour remporter la victoire. Et le show ne se termine pas là-dessus, parce qu'en fait, alors que Jey est en train de célébrer, il est tout de suite attaqué par Solo Sikoa, qui vient se venger un peu sur tout ce qui s'est passé, et sur les coups qu'il a pris, et sur le fait que Jey ait mouché son Tribal Chief, Roman. Jey arrive à repousser Solo Sikoa, mais Roman Reigns aussi intervient, parce qu'il était tout content en fait, de voir Solo prendre le dessus, mais quand Jey reprend le dessus, là, il fait « oulala », donc il lâche sa ceinture, il lâche sa veste. À noter que Roman, je pense c'est la première fois depuis le début, se balade désormais plus qu'avec le titre Undisputed et n'a plus les deux ceintures qu'il portait avant. Maintenant, il n'a plus qu'une et plus trois ceintures. Et donc Roman reprend le dessus et en fait, ils vont nous faire le double finish qu'ils nous avaient sorti quand ils ont tag team Roman et Solo. C'est-à-dire le spear et le pouce dans la gorge de face au Umaga. Ils vont le faire une fois, puis une deuxième fois, et du coup, ils vont célébrer ensuite avec un Jey Uso complètement défoncé au milieu du ring. Et donc, la Bloodline, ce qu'il en reste, a sa vengeance et a dominé Jey Uso dans ce main event, malgré la victoire de Jey contre Grayson Waller. Là, les affaires commencent vraiment à s'envenimer, Letty.
Oui, ça. Mais une fois de plus, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est assez symptomatique, je trouve, dans l'histoire de la Bloodline, c'est que les matchs soient entre eux ou soient contre d'autres personnes, généralement, c'est des matchs qui sont quand même de bonne qualité, hein, qui sont des très très bons matchs. Par contre, enfin, moi, j'ai eu beaucoup plus de mal à rentrer dans le match parce que j'étais plus en train d'attendre ce qu'allaient faire les autres. En fait, d'attendre plutôt l'après-match, en fait. J'avais limite hâte de me dire, c'est bon, on va terminer le match, qu'on voit ce qui se passe après. Mais c'était quand même très, très intéressant. Et effectivement, le fait qu'ils se baladent plus qu'avec une seule ceinture, déjà... Je sais pas, je pense qu'on se dirait presque qu'ils s'habituent à plus avoir de ceinture ou à qui doucement il essaye de s'imposer un peu moins. Et puis Jey forcément qui rentre dans sa tête à fond avec le spear, avec limite en le regardant dans les yeux. Moi aussi je peux le faire et je peux gagner et tu vas voir quoi ce qui va se passer. Et puis, après, c'est peut-être confus ce que je suis en train de dire, mais...
Ouais, voilà. Alors, je t'avouerais qu'il faut que tu me la refasses, là, parce que c'est confus, hein. Je t'ai perdu. Vas-y, répète, vas-y.
Donc, en gros, c'est très intéressant, voilà, c'est Jey qui est le plus intéressant, je trouve, dans toute cette histoire, c'est Jay et les relations, voilà, les petits regards, enfin tout ce qui se passe pendant les matchs et l'après-match, en fait. Voilà, tous les petits regards, tous les petits trucs qui se passent hors match, qui est un petit peu dommage quand même, mais intéressant.
Oui, bah, de toute façon, ils sont. Enfin, c'est. Alors là, l'avantage, c'est que. Alors, je me place suffisamment souvent pour dire que les histoires de la Bloodline sont inter-Bloodline et qu'il ne se passe pas grand-chose. Là, on a quand même un Jey Uso qui a affronté Grayson Waller en main event Jey Uso. Et je pense que ça lui fait énormément de bien à Jey de catcher un peu en solo et bah, voilà, d'avoir du temps d'antenne en main event. Parce que justement, c'est pas facile pour lui de se positionner en tant que main eventer face après avoir été tout le temps laqué heel en fait. La bascule est. Le public a envie de voir ça. Clairement, il est soutenu par le public. Mais c'est pas des pop. Enfin, moi, quand je le compare à des Cody Rhodes ou des Seth Rollins, c'est pas du tout la même planète en fait, Jey Uso. Hein. Il y a une espèce d'affection pour Jey Uso, mais pas encore de. Comment on peut dire ça, de fanatisme. Et du coup, bah, c'est. Que c'est compliqué et le fait en plus qu'il va bah, du coup il était complètement tout le temps à faire des segments micro, ça l'aidait pas là de faire un match. Je pense que ça peut lui faire du bien. Et puis pour le reste, en fait, c'est déjà booké l'histoire de Bloodline. On en avait parlé les semaines d'avant. Les segments micro ils tournent en rond parce qu'ils n'ont plus rien à dire. Le Tribal Combat, une fois qu'ils ont dévoilé cette carte là, on a compris, hein, ça va se finir comme ça. Il n'y aura pas de règles et puis certainement que Jimmy va revenir hein, parce que. Oui, il est blessé, on ne sait pas où il est, bah, t'inquiète pas qu'il se réserve pour SummerSlam. Et donc voilà, mais je pense que c'est important que Jay soit en main event. Et moi, je ne sais pas en fait si c'est juste un truc temporaire ou si c'est vraiment la piste finale de mettre Jay en pourfendeur du règne de Roman. Si c'est ça, il faut absolument lui mettre la position de main eventer face du show de babyface, ouais. Le mec qui va faire les main events ou les ouvertures, qui va faire des matchs tout le temps, qui va faire du micro, enfin voilà, parce que là en fait il est trop, pour l'instant il est encore un poil accessoire en fait à ce truc là. Il fait bien son taf dans la rivalité Bloodline, mais moi je vois pas encore un main eventer quand je vois Jey Uso. Ça me fait mal au cœur parce que c'est un de mes chouchous depuis au moins 18 mois là, qui pour moi qui il survole pas mal la WWE, mais il n'a pas encore la petite bascule. Là. J'ai besoin de la bascule. Peut-être qu'on l'aura SummerSlam.
Qui sait. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Il est très, très bon, en fait, voilà, dans ce qui fait avec la Bloodline et tout ça. Après, c'est vrai qu'on se dit, là, SummerSlam, la semaine prochaine, enfin, fin de semaine, là. S'il gagne, voilà, est-ce qu'on l'imagine durer plus de 3 semaines à la place, entre guillemets, de Roman, en fait. Et là, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal. Pareil, ça me fait mal de le dire parce que voilà, c'est vraiment. J'ai vraiment envie voilà, qu'il continue, mais oui, je te rejoins, il n'est pas encore complètement prêt. C'est ça qui est un petit peu compliqué.
Yes. Ben alors, on a fini là du coup, mais non, on n'a pas fini. On n'a pas fini parce que je suis un boulet que j'ai oublié un mini segment backstage. Puisqu'en fait, je parlais tout à l'heure de Bianca qui avait résolu ses problèmes gastriques, mais du coup son mari a résolu ses problèmes gastriques et son copain aussi, puisqu'on a retrouvé les Street Profits dans une espèce de salle lounge de Bobby Lashley, là, un truc avec du cuir, des belles lumières, de l'alcool, tout ce qu'il faut pour une soirée chez Ambassadeur. Et puis on a Bobby qui du coup c'est assez drôle parce que du coup il reprend comme s'il en était, il fait « Ah oui, alors bon, on s'était parlé il y a 2 semaines, entre-temps j'ai parlé à Carmelo, là j'ai croisé, et puis qui m'a dit du bien de vous, je sais pas pourquoi il a demandé l'avis du mec d'NXT, mais bon, pourquoi pas ?» Et puis bah, il dit « Par contre, moi je veux que ce soit on est là entre personnes de bonne compagnie, mais moi je veux que ce soit un truc classe, et il faut être habillé classe, quoi. » Et là, le regard de Bobby se pose sur… Angelo Dawkins, voilà, et du coup Montez Ford le pousse un peu en disant non mais oh, Angelo Dawkins il comprend pas, il fait bah quoi, c'est pas classe un jogging là, jogging basket c'est pas classe, et là Bobby fait non, et donc du coup Il avait une jolie jeune femme avec un magnifique, qu'on s'appelle ça, c'est pas un porte-manteau, mais un présentoir à veste pour présenter des nouveaux vêtements à Angelo Dawkins, qui manifestement va s'habiller désormais chez Jules et Bobby. Voilà, je m'en voulais de ne pas avoir cité ce segment. Est-ce que Letty, tu as quelque chose à dire là-dessus sur la façon de s'habiller d'Angelo Dawkins?
Non, pas grand-chose. Après, voilà, on verra ce que ça donne. Il fait ses petits rendez-vous, Bobby Lashley, et voilà, on verra.
Yes, bah oui, voilà. Et je te dis un truc, franchement, ça me rappelle fortement leur business, hein, quoi. Bobby Lashley qui d'un coup se met à mettre des costards et puis qui commence à inviter une tag team avec lui. J'ai l'impression qu'il a. Il a pas beaucoup trop d'idées de renouvellement, Bobby.
C'est ça. Peut-être que la semaine prochaine, il cherchera MVP. On sait jamais.
On sait jamais. MVP qu'on ne voit plus, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il est en pause ou s'il est plus sous contrat, mais on ne le voit plus trop ces temps-ci. Allez, on va quand même en finir, là. C'est la fin de l'épisode, après cette petite aparté vestimentaire. Nous allons donc arriver à la tradition catch-up-esque avec le mot de la fin. Et Letty, tu vas avoir l'honneur de nous donner en exclusivité ton top, ton flop et ta note pour ce SmackDown.
Alors, c'est un peu compliqué. J'avais pris des notes et puis en fait, en refaisant le show, en faisant la review, j'ai décidé de changer. Donc en fait, j'ai donné mon top aux filles, en fait. Puisque c'est vrai que voilà, les quelques séquences qu'il y a eu sont plutôt intéressantes et... comme j'ai dit, il y a eu pas mal d'évolutions ces dernières semaines. Donc, ce sera pour la division féminine en règle générale. Mon flop, sans trop de surprise, j'imagine, ira pour Karrion Kross. Puisque, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. C'est pas de sa faute, hein, mais je ne supporte pas. Donc... Donc, quand il est là, c'est compliqué de pas lui donner un flop. Et... ma note, je dirais un 3 sur 5. C'était un show qui était plutôt intéressant sur pas mal d'aspects, mais j'ai pas eu le côté waouh comme on a eu au dernier Raw. Il manquait un petit quelque chose.
Il manquait un petit quelque chose. Il manquait un petit quelque chose, mais il y a quelque chose de supplémentaire par rapport au dernier SmackDown. Je commençais directement par ma note. Puisque moi je mettais des 2,75 à répétition sur SmackDown parce que je trouvais que c'était complètement creux en dehors de la Bloodline, et là effectivement comme tu l'as dit, les filles notamment ont fait un joli passage. Le reste est peut-être un poil moins brillant, mais ne serait-ce qu'avoir les filles en plus de Bloodline, c'est comme une nouveauté. En plus, avoir la Bloodline qui cette fois-ci touche un peu un autre catcheur, c'est fait plaisir. Donc du coup, je vais monter ma note et je vais monter à un 3 aussi, un 3 d'encouragement, en espérant qu'ils arrivent vraiment à homogénéiser l'ensemble des histoires. Par exemple, le titre US là où je vais donner mon flop. Alors c'est un flop un peu vache parce que le match se termine par un abandon, un forfait de Rey Mysterio suite à sa blessure. Mais bon, déjà, le truc était mal branlé au départ, là. En plus, avec Austin Theory qui était loin, en tribune, là, à bouffer des pop-corns, ça donnait pas super envie. Et puis, la blessure est venue couronner le tout. Donc, cette histoire de titre US, elle m'a l'air bien, bien mal embarquée. J'aimerais la semaine dernière, je m'étais dit, tiens, peut-être qu'ils vont nous surprendre. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils ont juste pas d'idée, puis qu'ils enchaînent les shows les uns après les autres. Et mon top, tu l'as donné aux filles, c'est ça? Donc, je vais le donner à qui, moi, le top? C'est dur parce que les filles elles ont vraiment bien travaillé, hein. C'est compliqué de pas leur donner à toutes les filles, ou à une en particulier t'as donné?
J'avais donné en règle en global sur la division.
En global, tu m'as coupé l'arbre sous le pied totalement.
Après, elle mérite peut-être un double top, hein.
On peut donner un double top aux filles. Est-ce qu'on donne un double top? Allez, je vais donner un double top aux filles parce que le nombre de fois elles se sont tapées les doubles flops,
c'est ça.
On va essayer d'équilibrer un peu. Elles ont mérité leur double top et surtout et comme toi, j'ai envie de féliciter la division d'ensemble, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, là il y a 5 filles plus Chotzi qui sont vraiment en train de bien travailler, donc que ça continue comme ça. Bah voilà, on arrive au bout de cette review de SmackDown. Comme d'habitude, vous pouvez nous trouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast dont j'ai oublié le nom. Qu'est-ce qu'il y a comme bonne plateforme de podcast? Est-ce qu'on en, ce qu'on en connaît? Google Podcast, c'est une bonne plateforme de podcast, je crois. Apple Podcast.
Oui.
Ocha, tu m'as dit quoi?
Spotify.
Spotify, bien sûr. Ah, Spotify. Voilà, moi, tu vois, toi, tu bosses directement les gros noms. Moi, je fais que les petits joueurs, là. Qui est-ce qu'on a d'autre? Bah, je sais plus. Voilà. Voilà, vous débrouillerez, de toute façon. Si vous nous écoutez, c'est que quelque part, vous êtes déjà sur une plateforme de podcast. Voilà.
C'est ça. On a YouTube aussi.
Ou alors sur YouTube. Eh oui, voilà. Sur YouTube, vous êtes sur YouTube. Ou alors, vous pouvez tout. Vous pouvez passer sur Catch Up CDC sur notre compte Twitter ou sur notre compte Facebook ou Instagram même, pour se dire bah tiens, est-ce qu'il n'y aura pas des revues de Catch Up en ce moment? Et si vous avez vraiment un doute, ou alors si vous avez envie de poster un commentaire, mais vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes pas en train d'écouter sur YouTube et donc du coup il n'y a pas de commentaire sur Spotify, bah, vous pouvez aller où? Sur notre Discord qui est ouvert à vous les auditeurs, puisque l'invitation se situe dans le corps de ce podcast, je vais y arriver. Et donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour débattre avec nous de l'ensemble des shows là, surtout en cette période estivale là. Je sens que tout le monde est chaud pour parler. Il y a quand même un SummerSlam, c'est le deuxième show de l'année là qui arrive, hein, les gars. Faut venir parler avec nous. Hein. Et puis aussi, n'oubliez pas Pay-per-view qui approche, PLE qui approche, signifie concours de pronos qui approche. Et avec la carte de SummerSlam monstrueuse, avec une Battle Royale, je peux vous dire qu'il y aura des points à aller glaner. Donc du coup, venez nous rejoindre. Voilà, je pense qu'on en a fini pour cette review. Et donc, pendant que je remercie les auditeurs, je vais surtout remercier ma tag team partenaire de choix qui est Letty. Merci Letty.
Et bien, merci à toi pour cette présentation.
Mais de rien, ce fut un grand plaisir de partager ce moment avec toi, ce mix tag team. Et puis du coup, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres revues pleines de catch. Salut.
Salut à tous.
Dire que j'ai failli oublier le Bobby, quoi. Où va-t-on? Où va le monde?